Alors, cette messe, aujourd'hui, elle est dédiée à tous les saints et elle est placée à la fin de l'année liturgique. Ainsi, elle est en harmonie avec la liturgie des dimanches et elle nous place dans cet avènement du royaume de Dieu. C'est une fête qui nous rappelle le second avènement du Seigneur, l'instauration de ce royaume glorieux. Et c'est alors que se rassembleront une foule immense, celle de tous les saints, de tous ceux qui auront conformé leur vie à l'Évangile, et Dieu lui-même sera leur béatitude. Voici le petit commentaire qui est en tête de nos missels. Alors, cette fête de tous les saints, elle est bien sûr en lien étroit avec la fête des morts, avec la messe des défunts qui a lieu le 2 novembre. Et les deux sont souvent cumulés avec une fête de la Toussaint où le souvenir des morts est quelque chose de très présent. Alors, dans cette messe, bien, nous unissons ces deux dimensions, la litanie des saints et l'évocation de nos défunts. Dans cette liturgie, dans les textes de ce jour, il y a une telle richesse d'images, d'expressions, un tel enseignement que c'est tout simplement pas possible de tout commenter en détail. Mais il y a quand même quelques points sur lesquels on peut insister. Tout d'abord, je reviendrai sur le 144 000 qui fait frémir un grand nombre de personnes. Quoi ? Dieu a mis en place toute cette création et à la fin, il n'y en a que 144 000 qui seront sauvés. Il y a comme quelque chose qui ne va pas. Alors, bien sûr, ces 144 000, ce n'est pas un nombre, ce n'est pas une quantité. Et aujourd'hui, il y a des milliards d'humains vivants et morts, et le Christ est venu pour tous. Donc, cette lecture à la lettre, cette lecture qui favorise les petits groupuscules, les sectes, qui se prétendent les seuls détenteurs de la vérité en disant « Chez nous, vous serez dans ces 144 000 », eh bien, cette lecture à la lettre, elle ne doit pas être retenue, elle n'est pas celle de l'Église gallicane. Ce chiffre, il est symbolique avec, en fait, 144 000, c'est 12 fois 12 fois 1000. Et ce 12 fois 12, eh bien, on peut le traduire comme 12 étant le cycle des mois, le cycle d'une année, le 12 étant aussi le parfait achèvement, ce serait le parfait achèvement de tous les cycles. Et cette dimension du 1000, les pères de l'Église disaient que c'était l'ensemble des générations, la perfection de la vie, l'immortalité du bonheur et l'idée de la multitude. On peut donc retenir dans ce 144 000 la perfection de l'humanité et de la création. C'est la perfection de l'humanité et de la création qui sera sauvé et qui est exprimé dans ce texte. Et cette foule immense qui suit dans la vision de Saint Jean devant le trône de Dieu, vêtue de blanc, avec des palmes à la main, des palmes comme sur cette statue, la palme du salut, eh bien, c'est tous ceux qui sont passés, qui ont atteint le royaume, les saints, mais pas seulement. Ça fait penser aussi à ceux qu'on appelle, par exemple, les justes devant les nations, qui ont, par exemple, caché des enfants juifs pendant la guerre. Des personnes qui ont, par leur vie, par cette action, donné une autre dimension à leur existence. Alors, bien sûr, cette, cette fête, cette foule en blanc. On peut voir ici le contraste avec, avec les déguisements et les défilés d'Halloween, avec cette dimension mortifère, avec cette dimension d'emprisonnement dans les aspects négatifs. Et quand on parlait de ce que l'on pourrait faire avec cette fête de la Toussaint, eh bien, ce défilé des personnes en blanc, c'est cette victoire éclatante, et c'est ce qui permet de passer au-delà de la mort. Passer au-delà de la mort par ce retournement, un retournement de la vie qui fait entrer dans cet au-delà céleste. Et puis cette messe, elle est marquée par la fulgurance de l'évangile de Matthieu. C'est celui qu'on appelle le commencement du sermon sur la montagne. Le Christ commence son enseignement, et dans ce début de sermon, eh bien, il résume les thèmes de ce qu'il veut annoncer. Il résume les thèmes de cette bonne nouvelle qu'il veut révéler au monde. Et chose très étonnante, eh bien, ça commence par ce mot « heureux ». Heureux comme si le Christ voulait placer au centre de ses préoccupations cette dimension du bonheur. Et ça, je crois que c'est un des aspects essentiels, souvent oubliés. Ne jamais oublier que être chrétien, c'est rechercher sans cesse le bonheur. Ce n'est pas se martyriser, ce n'est pas passer sa vie dans la peur du péché, et ce n'est pas vivre non plus dans la crainte d'un Dieu terrible, strict et vengeur. Être chrétien, c'est rechercher sans cesse le bonheur. Bien sûr, pas n'importe quel bonheur. Le bonheur plein et vrai. Le bonheur qui est capable de remplir toute une vie. Le bonheur qui n'en finit pas. Et ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure sur la vision des pères de l'Église par rapport aux 144 000. Heureux les pauvres en esprit. Voilà aussi une phrase qui fait poser beaucoup de questions. Cette phrase ne veut pas dire heureux les simples d'esprit. Ce n'est pas du tout la même chose qui est annoncée. Heureux les pauvres. Pauvre est pris dans le sens de cette dimension où quelqu'un qui n'est pas saturé des richesses du monde, quelqu'un qui vit en cherchant cette part qui lui manque pour être pleinement lui-même, ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas tout seuls. C'est ça la dimension de la pauvreté qui est évoquée dans ce texte. Si on est dans cette dimension de la pauvreté, alors oui, on peut demander « Aidez-moi, Seigneur ». Aidez-moi, car par moi-même, tout seul, en ne comptant que sur mes propres forces, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas atteindre cette dimension du bonheur. Et si je suis dans cette dimension de la pauvreté, si je suis pauvre dans la dimension de l'esprit, alors j'ai en moi une place pour que l'Esprit de Dieu habite en moi et que l'Esprit de Dieu m'ouvre à une autre réalité. Cet Esprit de Dieu qui fait grandir en nous des charismes. Charismes dont il est question dans toutes les autres thèmes de ces béatitudes. La douceur, la compassion, la soif de justice, la miséricorde, la pureté, la paix. Tous ces charismes, ce sont les outils de cette quête du bonheur. Des outils pour mener une vie simple, digne et juste. Une vie qui conduit au bonheur pour soi et pour ceux qui nous entourent. Et dans ces paroles, eh bien, Jésus nous enseigne cette simplicité à se confier en Dieu. Et dans cette messe, eh bien, les textes qui sont évoqués, et puis les autres prières, celles de l'offertoire, celles de la secrète. Ces textes nous font rentrer dans le royaume. Ils nous font rentrer comme par avance. Ils nous unissent aujourd'hui à une réalité qui est la réalité céleste, avec les saints, avec les anges, avec les hiérarchies célestes et aussi avec tous les défunts. Et dans cette messe, il y a une proximité particulière, il y a une unité qui nous dit que les réalités que nous connaissons ne sont pas séparées de façon stricte. Ce n'est pas rangé dans des cases précises, ce n'est pas étanche. L'humain peut percevoir d'autres réalités et ces réalités, elles peuvent vivre en nous dès ici-bas, dès cette vie. Et encore une fois, dans cette vie et dans les célébrations de toute cette fin de l'année liturgique, la question essentielle qui est posée, ce n'est pas « y a-t-il une vie après la mort ?» mais c'est « est-ce que je serai vivant un jour avant de mourir ?» Et être vivant, eh bien, c'est cette recherche véritable du bonheur. Cette recherche du bonheur véritable. Eh bien, le bonheur des béatitudes, c'est l'accomplissement, la description de l'accomplissement total et parfait de cette quête. Et il n'est pas réservé à une petite élite triée sur le volet. Il est là pour tous, il est là pour nous, dès cette vie. Et toute la liturgie, elle est tournée pour que nous puissions intégrer et nous approprier, chacun selon nos dispositions, cette dimension et rentrer un peu plus dans cette marche vers le royaume. Amen.